Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série tellement importante concernant le salut. Le salut. Et le titre aujourd'hui sera « L'homme qui pria un saint ». Les saints ne sont pas toujours ceux qu'on nous a fait croire ou enseigner par erreur. Et nous allons nous en rendre compte, je l'espère. Donc l'homme qui pria un saint. Avez-vous jamais entendu l'histoire d'Abraham? Ce fut un saint. C'est une histoire étrange et pourtant elle est absolument véridique. C'est une histoire en deux tableaux, l'un de ce côté de la tombe, l'autre de l'autre côté de la tombe. Les deux tableaux sont ceux de deux hommes. Le premier dans ce monde que nous vivons, l'autre dans celui qui est à venir, qui est à venir. Alors voyons d'abord le premier tableau. Dans le premier tableau, il y a un homme riche, un homme du monde. Il était prospère et satisfait. Il avait tout ce que l'argent peut acheter. Il vivait dans une magnifique demeure, avait des serviteurs pour veiller à ses soins, et il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Je ne doute pas qu'il était hautement respecté dans sa communauté, dans sa région. Il avait beaucoup d'amis, on a toujours beaucoup d'amis quand on est riche. Les riches en ont généralement. Donc, son vêtement était des meilleurs. C'était des vêtements de pourpre et de fin lin. Il devait tenir une position importante. De toute manière, il vivait dans le luxe et ne manquait absolument de rien. Dieu ne le condamna pas du fait qu'il était riche. Qu'on le comprenne bien. Dieu nous accepte, riches ou pauvres. Donc, je répète, Dieu ne le condamna pas du fait qu'il était riche. Au moins, il avait acquis ses richesses honnêtement. C'est ça qui est important. Il doit avoir été économe et même très travailleur. Ceux qui sont paresseux n'amassent pas tellement d'argent. S'ils en ont, c'est par des moyens, comme nous dirons, avec humour, peu catholiques. Il avait donc employé ses ménages. Il avait économisé. Il n'était absolument pas dépensier. Et il n'employa pas son temps pour des frivolités en pensant que l'État lui devait sa subsistance. Non, non, non. Il avait investi ses talents au mieux de sa connaissance et il avait ainsi pu prospérer. Le malheur pour lui, comme pour tant d'autres, riches ou pauvres, voyez, je dis bien qu'on soit riche ou pauvre, c'est que il avait laissé Dieu totalement en dehors de sa vie. C'est là le problème. Il ne ressentait pas son besoin de Dieu. Il vivait uniquement pour lui-même et pour lui-même seulement. Et il avait un cœur de pierre, car il demeurait totalement insensible à la vue de la pauvreté à sa porte. Il ne montrait aucune miséricorde, aucune. Tout ce qu'il possédait, il le gardait pour lui. Il n'avait rien pour les autres, rien pour l'œuvre de Dieu, surtout pas. Satisfait de lui-même comme il l'était, il ne tenait aucun compte de Dieu. J'ai connu des hommes riches qui étaient d'humbles et dévoués disciples du Seigneur Jésus-Christ, vraiment, et qui ont employé leur argent pour la gloire de Dieu, et qui ont été même en bénédiction à des milliers de personnes. Mais cet homme-là ne savait que faire de Dieu. Dieu n'entrait pas dans ses pensées. C'était, comme on dirait aujourd'hui, un total athée, païen. Or maintenant, on ne voit là une autre partie à cette première image. Elle décrit un mendiant nommé Lazare. Jour après jour, il se traîne vers la demeure de l'homme riche et, incapable de se tenir debout, il est couché à sa porte, espérant recevoir quelques miettes dévorées avidement par les chiens affamés sous la table. Mais généralement, les chiens arrivent là en premier et le mendiant ne reçoit plus rien. Lazare, presque dépourvu de vêtements et couvert d'ulcères, vraiment de vilaines plaies, bien trop communes en Orient, aucun médecin en ce temps-là n'est envoyé par l'homme riche pour s'occuper de lui. Du reste, au stade où se trouvait la maladie avancée de Lazare, en ce temps-là, on ne pouvait plus faire grand-chose. Aucun lit confortable n'est mis à sa disposition sur lequel il pourrait par exemple reposer son corps malade, affaibli et fatigué. Aucune nourriture ne lui est donnée. En fait, il semble ne pas avoir d'amis. Mais non, il n'est tout de même pas tout seul. Les chiens sont ses compagnons, car eux aussi ont faim, et ils semblent capables de sympathiser avec lui. De toute manière, ils se réunissent autour de lui et même lui lèchent ses plaies. Pauvre Lazare, quelle tragédie! Et ainsi ils vivent, l'homme riche et le mendiant. Mais finalement, voyez-vous, comme pour toute l'humanité, la vie se termine et la mort vient pour tout un chacun d'entre nous, tôt ou tard. Tous les deux meurent donc, d'abord le mendiant et ensuite l'homme riche. Un jour, les serviteurs regardent et voici le corps amaigri du mendiant ou ce qu'il en reste. Quelqu'un le jette dans un fossé, hors de la vue, et Lazare n'est plus. Plus jamais l'homme riche ne sera importuné par sa présence. Plus jamais les chiens ne lécheront ses plaies. Il ne suffira plus de dire il a froid ou pas, car il ne souffrira plus ni du chaud ni du froid. Plus jamais il ne sentira les morsures de la faim. Plus jamais ses plaies ne démangeront ni ne brûleront. Son pauvre corps nu, ruiné par la souffrance, sale et sans soin, et enfin raide et totalement sans vie. Mais, oui, il y a un mais maintenant, c'est le tour de l'homme riche, car lui aussi doit mourir. Il appelle les meilleurs médecins, car il est malade à mort. Des remèdes sont prescrits. La meilleure médecine connue par les très habiles praticiens en ce temps-là est employée. Les serviteurs font la navette sur la pointe des pieds. Là, sur son lit luxueux, il est couché, respirant, on peut dire, avec peine. Aucun effort n'est épargné pour essayer de sauver sa vie. Dans le foyer, un feu brûle pour lui donner chaud, ce qui n'était évidemment jamais le cas pour Lazare. Les amis et la parenté se rassemblent. Mais tout est en vain. L'argent ne peut le sauver. L'homme riche, lui aussi, il meurt. Somptueuses sont, vous pouvez bien l'imaginer, très somptueuses sont les préparations faites pour son enterrement. Il faut que ce soit un des plus beaux à la hauteur de sa position dans la vie. Pas de modeste enterrement chrétien pour lui. Le plus réputé, on peut bien dire, entrepreneur des pompes funèbres de la ville se trouve là. Les pleurs les plus chers sont engagés. Cela fait penser à la Corée du Nord. Jamais, et vraiment, on peut dire jamais, un tel cercueil n'a été vu auparavant, au moins pas dans sa communauté. C'est le meilleur que l'argent a pu acheter. Les porteurs sont ses associés les plus riches et les plus intimes. Il le porte sur leurs épaules. Il est loué par chacun et il est enterré dans son propre tombeau, la partie la plus en vue du cimetière, un tombeau digne d'un roi. C'est un grand spectacle et pendant des jours, c'est le sujet de conversation en ville. Il fut enterré, oui, il fut enterré, tandis que le mendiant, rappelez-vous, ne le fut absolument pas. Et c'est là la fin. Mais voyons maintenant le deuxième tableau. La fin, ai-je dit. L'histoire est-elle en effet terminée? N'y a-t-il rien de plus? Comment la mort et la fin? Comment peut-elle être la fin totale? Oui, en effet, sans Jésus-Christ, cela aurait pu être la fin. Mais Jésus a vu ce qui suivit immédiatement après. Il pouvait voir dans l'autre vie. Il savait ce qui était arrivé. Il aurait pu arrêter l'histoire ou nous aurions dû l'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Il voyait au-delà. Et Jésus-Christ enlève maintenant le voile. Et maintenant, il continue l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Voilà donc un autre tableau. C'est un tableau de la vie de l'autre côté du tombeau. Regardons cela de plus près. Premièrement, Jésus-Christ dirige nos yeux vers le mendiant. il le voit mourir, nous aussi. Mais il voit ce qui arrive au moment où il quitte son corps, où l'âme quitte son corps. Nous ne le pouvons pas, et ainsi il nous le dit. Jésus-Christ voit les anges de Dieu. Ils se tiennent là, là tout près, invisibles à l'œil mortel, invisibles encore pour le mendiant lui-même. Ils attendent qu'il respire pour la dernière fois et qu'il quitte donc ainsi sa demeure de terre, son enveloppe charnelle. Enfin, tout est fini, ses luttes cessent et en un moment, il glisse hors de sa prison de chair. Un moment plus tard, il est libre. Il regarde autour de lui. La scène n'a pas changé. Là se trouve la demeure de l'homme riche. Là sont les chiens. Et là encore, à côté de lui, est son corps qui lui appartenait auparavant. Soudain, il lève les yeux et là, à sa stupéfaction, sont les anges. Et avec un sourire joyeux, il se tourne vers eux. Avec empressement, il l'entoure. Des paroles de consolation sont exprimées. Et il le porte en haut. Il est conduit, ce qu'on appelle dans le sein d'Abraham, le paradis de Dieu. Oh, quelle scène merveilleuse! Quelle expérience glorieuse! Chers amis, laissez-moi m'arrêter pour un moment. Pourquoi craignez-vous la mort? Ne connaissez-vous pas Jésus-Christ? Et n'est-il pas votre Sauveur? Alors permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous ne serez pas seul. Maintenant même, les anges vous attendent. Au moment où vous fermez les yeux à cette vie, ils seront là pour vous souhaiter la bienvenue. Vous ne pouvez les voir maintenant, mais alors, là, vous les verrez enfin. Ils vous indiqueront le chemin. Vous ne le sauriez pas vous-même, mais ils vous guideront. Ils vous porteront à la maison. Mais maintenant, qu'en est-il de l'homme riche? Nous l'avons laissé dans un tombeau de riches. Maintenant, nous le voyons de nouveau tandis que Jésus-Christ continue son histoire. Et où est-il? Où est-il? Au Hadès, une prison pour les âmes destinées à l'enfer. Quelle est sa condition? Il est en proie au tourment. Et tandis qu'il souffre, il lève les yeux et voit Lazare de loin, dans le sein d'Abraham. Quel contraste! Oui, et quelle calamité! Il est tout à fait conscient, voyez-vous. Il n'y a aucun signe d'un sommeil de l'âme, et il n'a pas non plus été annihilé, totalement détruit. Il est là et il est conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Il voit, il entend, il parle, il sent et surtout il souffre. Ceux qui sont inconscients ne voient ni n'entendent. Ils ne parlent pas, ne sentent pas et ne souffrent pas non plus. Il n'est donc pas inconscient. Maintenant enfin, l'homme riche prie. Je dis enfin, car je doute qu'il ait jamais prié auparavant. Jamais. À vrai dire, il ne ressentit jamais, avant cela, le besoin de la prière. Il avait tout ce qui lui était nécessaire et il n'avait pas à demander quoi que ce soit. Au moins, il pensait tout avoir, mais il n'était pas conscient de son plus grand besoin, c'est-à-dire son besoin de Dieu. Et ainsi, maintenant, il prie. Oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à prier, ou bien? Nous avons tous besoin de la prière. La prière, elle est bonne. C'est une bonne chose de prier. Mais voilà, la prière de l'homme ne lui sert à rien. Pourquoi? Eh bien, il y a là deux choses. Premièrement, il ne s'adressa pas à la bonne personne. Il pria un saint. Père Abraham, cria-t-il. Abraham était un des plus grands saints, c'est vrai. Et si saint que soit-il, Abraham ne pouvait pas l'aider. Quel saint le pouvait-il? Aucun, absolument aucun. Pourquoi les gens prient un saint de moindre importance quand le plus grand ne peut rien faire? Je ne comprends pas. Ils prient tous les petits saints tels que Saint Nicolas, Saint Christophe, Saint Joseph, Saint Antoine et naturellement la Sainte Vierge, sans compter les Vierges de Fatima, les Vierges Noires, etc. Mais qui sont-ils en comparaison avec Saint Abraham? Si un des plus grands saints ne peut absolument pas aider, à quoi sert-il de prier des saints mineurs? Sûrement que si un saint pouvait répondre à la prière, c'était bien Saint Abraham, mais il ne pouvait faire quoi que ce soit. Ainsi, il est inutile de prier un saint, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et vous pouvez voir 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et c'est à lui qu'il aurait dû prier. Mais il pria la mauvaise personne. Ça, c'était sa première erreur. Deuxièmement, il pria beaucoup trop tard. Il aurait dû prier pendant qu'il était encore dans son corps, quand il était encore vivant, charnellement. Mais il attendit jusqu'après la mort, et alors c'était beaucoup trop tard. Le séjour des morts n'est pas, mais pas du tout la place où il faut prier. Et des millions font la même erreur aujourd'hui. Ils ne veulent pas prendre le temps de prier maintenant, mais ils prieront du sein de leur misère dans l'éternité, et alors ce sera trop tard. Ils crieront, mais leur cri sera en vain. Leurs lamentations ne seront pas entendues là, car c'est maintenant le temps de prier. L'homme riche pria, comme vous le savez maintenant, quand c'était trop tard. C'était sa deuxième erreur. Voici sa première requête. Dans sa prière, il fait trois requêtes. Et j'aimerais que vous notiez, si vous le voulez bien, comment elles ont été reçues. Voici donc la première requête. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'était une prière pour lui-même. C'était un cri demandant miséricorde, de l'eau, pas un seau d'eau, pas une tasse d'eau, pas même une cuillère d'eau, juste une goutte d'eau. Le doigt trempé dans l'eau, pas même la main, et même pas tout le doigt, juste le bout du doigt. Oh, quel désespoir, quelle torture et quelle misère! Je dis que c'était une prière demandant la miséricorde. Oui, mais il n'avait manifesté aucune miséricorde quand il en avait l'occasion. Pas même à Lazare. Son cœur était aussi dur qu'une pierre. Il ne connaissait pas le sens du mot. Et maintenant, il demande avec des cris la miséricorde. Et Lazare, le mendiant, lui, Lazare, qui avait été indigne de son attention sur la terre, Lazare dont les services ne lui avaient jamais été nécessaires, Lazare est maintenant son seul espoir. Envoie, s'il te plaît, Lazare. C'était maintenant, pensait-il, son seul ami. Oh, si au moins Lazare pouvait l'aider. Et dans une plainte agonisante, il présente sa première requête. Mais maintenant la réponse d'Abraham, s'il vous plaît, écoutez. Laissez-moi vous la citer dans ses propres paroles. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Mon enfant, souviens-toi, mais c'était justement la chose qu'il ne désirait pas faire. Oh, si seulement il pouvait oublier. Mais c'est ce qui le torturait le plus. Naturellement, il se souvenait, et comment? Il se rappelait sa vie passée, sa vie d'aisance et de confort. Il se rappelait toutes les bonnes choses dont il avait alors joui. Il se souvenait des jours de prospérité, de sa belle demeure, de son compte en banque, de sa riche nourriture. Il se souvenait aussi de la bonne brise rafraîchissante, des jours et des nuits froids quand il jouissait de la chaleur du feu. Oui, et il se souvenait du mendiant qui était couché à sa porte et des chiens errants. Il pouvait les voir maintenant, se battant au sujet des miettes qui tombaient de sa table, et puis se retournant pour lécher les plaies dégoûtantes qui couvraient la forme squelettique de Lazare. Combien il aurait aimé oublier tout cela, mais il fallait qu'il se souvienne. Vous aussi, chers amis, vous vous souviendrez absolument de tout. C'est ce qui fera vraiment de l'enfer un véritable enfer. Vous vous rappellerez vos péchés, ils vous hanteront, et chacun de ces péchés sera une souffrance. Ces choses faites en secret, vous ne les oublierez jamais, oui, jamais. Vous vous souviendrez de la jeune fille que vous avez ruinée et damnée, du petit enfant que vous avez abusé, de votre argent gaspillé et pire encore, de votre vie totalement gâchée. Vous vous souviendrez des nombreuses fois où vous avez entendu l'Évangile et celle où vous avez rejeté l'invitation à accepter Christ. Vous vous rappellerez comment le prédicateur vous a supplié et comment vous avez quitté la réunion sans vouloir être sauvé. Mais ce n'est pas la fin de la réponse. Abraham a encore plus à dire. Il fait remarquer que la situation a été retournée, que l'homme riche, qui avait joui des bonnes choses de la vie, est maintenant tourmenté, et que Lazare, qui n'avait connu que la souffrance, lui est maintenant réconforté. Ainsi il continue notre histoire. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un très grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent jamais le faire. Que dit-il? Quelle nouvelle révélation est cela? Un très grand abîme. Quelque chose entre eux. Deux choses à cet égard. Premièrement, c'est un très grand abîme. Je pense simplement comme une image au Grand Canyon. Pour moi, c'est un grand abîme. Pourtant, il pourrait être possible de trouver un chemin pour le traverser, mais pas à cet autre abîme. Car il est si grand que personne ne peut le traverser jamais. Cela veut dire séparation éternelle. Et c'est pourquoi l'homme riche a vu Abraham de loin. Il était arrivé au mauvais côté de l'abîme et il devait rester là. Où l'arbre tombe, il restera. On ne peut le traverser. La destinée est fixée et elle est fixée pour l'éternité. La Bible dit que l'abîme est trop grand pour être traversé, que personne de l'autre côté ne peut traverser, qu'il n'y a pas de route pour passer. Pas de deuxième chance, pas d'occasion d'être sauvé dans l'au-delà. L'homme riche y est encore. Il est là depuis plus de 2000 ans et là, il restera. Il ne pourra jamais, jamais passer où se trouve Lazare, jamais. Ô chers amis, faites donc bien attention de peur que vous aussi arriviez du mauvais côté, car si vous y arrivez, vous ne traverserez jamais, car c'est un trop grand abîme. Cela signifie donc que personne ne peut le sortir de là une fois qu'il y est. Achetez toutes les indulgences que vous voudrez, payez à un prêtre ou un pasteur autant d'argent que vous le pourrez, demandez à l'Église et même au pape de prier, et tout cela ne vous servira de rien. Abraham dit que l'abîme ne peut être traversé. Vous ne pouvez les sortir de là. Deuxièmement, cet abîme restera là et il ne peut jamais être enlevé. Le Grand Canyon est là depuis des millénaires. Cet abîme demeure à jamais. Il ne disparaîtra pas. Des milliers d'années suivront des milliers d'années, mais l'abîme sera toujours là. Les sauvés et les perdus ne seront jamais réunis ensemble, jamais. Ils demeureront toujours séparés. Donc l'abîme restera là. Voici, chers amis, la deuxième requête. Et maintenant, sa deuxième requête. Voyons-la de plus près. Se rendant compte que sa propre condition est sans aucun espoir, il commence à penser à d'autres. Et ainsi il prie. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est une bonne chose de se soucier de sa parenté, mais n'était-il pas soucieux avant? Il aurait dû l'être. Pourquoi ne leur a-t-il pas parlé pendant qu'il en avait l'occasion? Pourquoi tarder tellement? Sommes-nous soucieux? Prions-nous pour notre parenté maintenant? Ou bien allons-nous aussi laisser cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Peut-être n'êtes-vous pas sauvé vous-même? Et savez-vous que vous allez en enfer? Dites-moi, voulez-vous que votre femme y aille avec vous? Tenez-vous à ce que vos enfants souffrent comme vous souffrirez? Ne vous mettez-vous pas en peine pour ceux que vous aimez? Mon ami, il faudra faire quelque chose. Il vaudra mieux que vous vous montriez anxieux maintenant. Alors, après, ce sera trop tard. Ainsi, il prie enfin pour ses frères. Mais quelle est la réponse d'Abraham? Merveilleuse, en effet. Écoutez bien cela. Abraham lui dit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Réponse brève, n'est-ce pas, mais combien claire. En d'autres termes, il dit, ils ont ce que vous pouvez avoir. Ils ont la Bible. Ils ont la sainte parole de Dieu. Ils ont les écrits qui sont inspirés par Dieu. Ils ont les écrits de Moïse et des prophètes, mais qu'ils les écoutent. Oh, la valeur qu'ils donnent maintenant aux saintes écritures, comme ils honorent la sainte parole. Elle est, dit-il, toute suffisante. Donc s'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu, au travers des prophètes, ils n'écouteront certainement pas Lazare. La parole de Dieu sera leur condamnation. Mon ami, vous avez la sainte parole. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous la procurer. Des Bibles des Nouveaux Testaments et des Évangiles sont vendues et même distribuées gratuitement par millions. De quoi d'autre avez-vous besoin? La foi vient de ce que on entend, et ce que on entend vient de la sainte parole de Dieu. Et voici sa troisième requête. Mais il n'a pas fini, car il est, et on le comprend, absolument désespéré. Pour lui-même, il sait qu'il n'y a plus aucun espoir. Mais oh, ses propres frères, ne peut-il faire quelque chose pour eux? Il essaye encore une fois. Il prie encore une fois. Et voici sa requête finale. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ainsi il raisonna et pria. Maintenant écoutez les dernières paroles d'Abraham, donc sa réponse finale. Écoutez, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Veuillez avoir la confirmation en regardant Saint Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Et vous verrez que tout ce que je viens de vous dire est absolument véridique. Beaucoup de gens pensent que des miracles convaincraient les hommes. Il y a eu un autre Lazare ressuscité des morts, ressuscité après qu'il a été mort pendant 4 jours. Vous pouvez trouver cela dans les évangiles. Les chefs furent-ils convaincus? Les chefs religieux de ce temps-là? Eh bien, vous savez bien que non, ils n'étaient pas convaincus. Encore une fois, la seule réponse d'Abraham, c'est la sainte parole de Dieu. Elle et elle seule doit et devrait suffire. Si les hommes ne veulent être convaincu et sauvé par elle, alors il n'y a pas d'espoir pour eux, jamais. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils rejettent les Écritures saintes de l'Ancien Testament, ils doivent donc périr. Un miracle ne serait d'aucune utilité. Pas une autre parole n'est prononcé. L'homme riche est réduit maintenant au silence. Il a prié pour la dernière fois et maintenant, avec un sentiment d'horreur, il doit attendre la venue de ses 5 frères, l'un après l'autre, à moins qu'il ne se repente. Le rideau tombe maintenant. Et tout est terminé, fini. À moins, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que c'est vraiment fini? Où est-il maintenant? Que pense-t-il aujourd'hui? Mes chers amis, vous avez un choix à faire. Vous pouvez choisir de passer l'éternité avec Lazare, ou vous pouvez continuer sur votre chemin et aller finalement à cette place de tourment où a dû aller l'homme riche. C'est à vous de décider, c'est à vous seul de prendre une décision. Ça s'appelle le libre choix. Voulez-vous donc écouter la sainte parole de Dieu et ouvrir votre cœur, votre esprit à Jésus-Christ, ou voulez-vous périr dans vos péchés? Voulez-vous être porté par les anges dans votre demeure céleste, ou voulez-vous être enterré et en enfer, lever les yeux et étant en proie au tourment? Lequel des deux est-ce que ce sera? Peut-être que vous aussi, vous avez prié un saint. Si ce saint avait été saint Abraham, il vous aurait conduit à la parole de Dieu. Il vous aurait dit par les paroles de saint Paul, « Confie-toi dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Voulez-vous le faire? Alors faites-le. Et faites-le surtout maintenant. Maintenant ou jamais. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière et je vous mettrai ensuite un ou deux chants du passé quand j'avais construit, quand j'avais fondé une mission sur cassette, il y a maintenant environ 50 ans. Et naturellement, ces cassettes sont un peu usées et la qualité laisse à désirer. Mais l'essentiel, c'est que des paroles peuvent peut-être encore être entendues et pénétrées dans notre cœur et dans notre esprit. Prions donc maintenant. Seigneur, après nous avoir confondus par la vue de nos misères, console-nous par celle de ta miséricorde. Fais que aujourd'hui, que enfin, nous commencions à nous corriger, à nous détacher, à fuir les faux biens qui sont pour nous de véritables maux, à ne croire que à ta vérité, à n'espérer que en tes promesses, à ne vivre que de ton amour. Soutiens-nous dans notre faiblesse. Fortifiez mon cœur, mon esprit, ô mon Dieu, contre les tentations, que je marche en ta présence, que j'agisse dans la dépendance de ton Esprit Saint, au jour précieux, qui sera peut-être le dernier d'une vie si courte et si fragile. Ô jour heureux, s'il nous avance vers celui qui n'a pas de fin. Ô mon Dieu, donne ton amour aux vivants et la paix, ta paix à tous ceux qui t'ont aimé jusqu'à la fin. Amen. Et je vous mets maintenant, si ça marche, un ou deux chants du passé.
Ce cantique est la preuve que la prière n'élimine pas nécessairement tous les troubles et les problèmes de nos vies, mais qu'au milieu même des tentations et des faiblesses, parfois même en pleine tragédie, Christ est cet ami toujours présent, toujours prêt à nous comprendre, nous entendre et à répondre à notre cri.
Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Avec lui, suivons donc les trois devoirs, en montant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
Parlons d'un autre cantique connu du monde chrétien et qui a retenti dans des centaines de halls, de stades, de salles lors des croisades d'évangélisation de Billy Graham. Il s'agit du cantique « Tel que je suis sans rien à moi ». Combien de personnes ont été bouleversées par ces paroles et ont répondu à l'appel de Jésus en chantant « Tel que je suis ». Aujourd'hui, les gens sont nombreux à penser que Dieu les acceptera parce qu'ils sont bons, généreux, parce qu'ils participent à quelques bonnes œuvres sociales ou même d'église. Mais la Bible dit que nous sommes sans mérite et sans excuse devant Dieu, que nous n'avons rien pour nous-mêmes, sinon son sang versé pour nous. Il ne sert à rien d'attendre de s'être amélioré avant de venir à Christ. Rien de tout cela ne nous rendra plus acceptables à ses yeux. Dieu nous aime tels que nous sommes, et c'est de cette manière que nous devons nous approcher de lui. Nous devrions aussi venir à lui parce que lui seul peut résoudre les problèmes de nos vies. Il peut nous libérer de nos sentiments de culpabilité, de nos vices, de nos passions, de nos frustrations mentales et de notre anxiété. Lui seul peut nous pardonner, nous laver et nous rendre présentables devant Dieu. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre au sujet du salut avant de venir à Christ. Je crois que Dieu nous demande de faire ce grand pas de la foi, malgré tout ce qui reste incompris dans notre esprit. Il est intéressant de savoir que Charlotte Elliott, auteur de ce cantique, fut invalide une grande partie de sa vie, et que ses mots ont été écrits pour exprimer sa victoire sur tous ses doutes d'ordre spirituel. En 1834, Mademoiselle Elliott vivait à Brighton, en Angleterre. Elle avait 45 ans, et avait été une chrétienne dévouée pendant bien des années. Malgré cela, elle était tourmentée, insatisfaite, se croyant si inutile dans son handicap et voyant tout le monde s'affairer autour d'elle. Dans sa dépression, elle était tentée de douter de la réalité de sa vie avec Dieu. C'est alors que, rassemblant ses forces et ses résolutions, Charlotte Elliott écrivit délibérément les raisons de sa confiance en Christ. Ce cantique en est le résultat. Dans les années suivantes, des milliers de chrétiens ont partagé cette expérience et renouvelé leur foi au travers de ces paroles familières.
terre.